11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Fervente défenseuse de la cause animale, oui. Si elle avait pu, elle aurait libéré tous les ours d'or de Berlin pour les remettre dans leur élément naturel.
Oui.
Elle ressent la souffrance des bêtes et c'est pas du cinéma. Christine Béroux.
Bonjour.
Bonjour à tous. En cette journée mondiale du droit de grève, il fera l'usage de son droit à ne pas sourire, l'indéridable Didier Porte. Bah dites bonjour Didier.
Bonjour quand même.
Sa femme le compare à la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Ça met du temps à remonter, mais quand ça se redresse, ça valait le coup d'attendre. Jean-Philippe Busini.
Je vois pas que vous voulez en venir, moi. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour les amis.
Pour célébrer le carnaval de Venise, il a téléphoné tout le week-end en appel masqué. Derrière son loup, il fait ce qui lui plaît, Ben H.
Tellement. Bonjour, bonjour à tous. Et celle qui est comme une bombe de la Seconde Guerre mondiale en plein Paris, elle fait déplacer les gens pour s'éclater devant eux, l'incendiaire Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte nous dira ce qu'il a retenu de l'actualité de ces derniers jours. À 11h30, nous recevrons Didier Benureau et Daniel Rousseau pour la pièce Le Crédit, actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. Christine Béroux nous fera un tuto comment obtenir un crédit.
Oui.
Et à partir de 11h50, notre invitée sera la belle Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT du week-end sur TF1 et co-auteure du livre Elles risquent leur vie, paru aux éditions Talendier. Ben H reviendra sur le quotidien des grands reporters et Jean-Philippe Busini nous racontera ce qu'il se passe chez lui pendant le JT 20h.
Exactement.
11h, 12h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Pourquoi il y a des gens qui sont méchants, maman? Ben parce qu'ils sont malheureux, ma chérie. Oui, mais vu la haine qui est en France en ce moment, il doit y en avoir beaucoup des gens très malheureux.
Et oui, d'où vient toute cette haine? Vous allez me demander, vous me le demandez?
Oui. D'où ça vient?
Quel enthousiasme! Tant pis, je vous le dis quand même, la haine vient de la colère. La colère, c'est une émotion qui a le grand inconvénient d'empêcher de réfléchir. Quand on est en colère, on ne réfléchit pas. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui ne réfléchissent pas sont en colère. Regardez les Kardashian, ils ne sont pas en colère. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les manifestants disent « Ah, faut nous comprendre, on est en colère !» Les éditorialistes remarquent « Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte colère qui s'exprime. » Les politiques disent « Il faut entendre cette colère, il faut l'écouter. » Même ma voisine chic a dit « Oh, les pauvres, il faut les comprendre. Ils sont en colère parce qu'ils sont pauvres. Mais moi aussi, je suis en colère. À cause d'eux, je n'ai pas pu faire les soldes. Oh. » Il y a quand même des colères qui n'engendrent pas la violence. Gandhi, Mandela, Martin Luther King étaient en colère, mais ne frappaient et n'insultaient personne. Même moi, parfois, je suis en colère. Et c'est pas pour ça que je boxe ma balance en la traitant de tous les noms. Parce que déjà, ça ne règle pas mon problème initial et ça m'en rajoute un deuxième, racheter une balance. Un grand philosophe a dit « La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. » C'est Maître Yoda dans Star Wars. Alors, en ce moment, on se demande quand même où sont passés les mots en yon. Vous savez, les mots comme réflexion, attention, discussion, affection, compréhension. En ce moment, ce qui domine, ce sont les mots en anse comme violence, intolérance, intolérance contre les homos, appelée aussi homophobie, intolérance contre les politiques, appelée populisme, intolérance contre les juifs, appelée antisémitisme, intolérance contre les étrangers, appelée racisme, intolérance contre les femmes, appelée sexisme, intolérance contre cette recherche perpétuelle de bouc émissaire, appelée aussi ambiance flippante, parce qu'elle rappelle de très mauvais souvenirs, pas si lointains de notre histoire. Alors la moins dangereuse finalement des intolérances, c'est l'intolérance au gluten. Il y a une semaine, un portrait de Simone Veil a été tagué par des croix nazies. Samedi, Finkielkraut a été insulté violemment. Alors nous les tolérants, parfois je me demande si nous n'avons pas tort de tolérer l'intolérable. Mais si on ne tolère pas les intolérants, on va nous-mêmes tomber dans l'intolérance. Mais si on est trop indulgent, si on laisse tout faire, tout dire, tout faire sans réagir, est-ce qu'on n'est pas des moutons lâches, irresponsables et coupables d'être incapables d'éliminer les brebis galeuses ? Vous avez 2 heures. La haine circule partout, tout le temps, même dans les endroits où il n'y a pas de wifi ni de réseau. La haine se transmet comme un virus. Et comme un virus, il n'y a pas de vaccin. Alors permettez-moi juste une piqûre de rappel. La haine, ça ne sert à rien. Il y a un mot en anse qu'on semble avoir oublié, un mot à qui on devrait en ce moment accorder toute son importance. C'est le mot bienveillance.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Alors, dans une semaine, ce sont les vacances scolaires de la zone de Paris. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, Jean-Philippe ?
Ah bah oui, avec ma femme, nous, on emmène les enfants faire du hors-piste en haute montagne, la nuit, sans boussole. Bah,
vous avez pas... enfin, Jean-Philippe, vous n'avez pas peur de les perdre, vos enfants ?
Bah écoutez, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Pour l'instant, ils s'accrochent. Mais si vous avez un meilleur plan, dites-le moi, hein, parce que...
Christine ?
Eh bah oui, moi je pars en Thalasso à Saint-Malo avec ma fille. Alors selon la brochure, je devrais revenir amincie et détendue, mais selon la facture, je devrais surtout revenir pauvre.
Didier ?
Des vacances, vous faites allusion à cette période d'oisiveté volontaire et de chômage technique où on est tenu d'afficher une décontraction obligatoire en tenue vestimentaire approximative, souvent ridicule, et où on accepte de payer avec le sourire un vin chaud indigeste au prix d'une louche de caviar. Moi qui me crispe à la seule évocation des mots décontraction, sourire et bonne humeur, vous comprendrez aisément que je ne me prête pas à cette sinistre convention sociale. Je ne vous salue pas.
Ben H.
Oh non, mais non, moi, Anne Roumanoff, vous le savez très bien, je suis votre soldat dans cette émission. Moi, c'est toujours le boulot sans relâche, toujours le travail, encore le travail.
Moi, c'est bien, mon petit Ben H.
Mais merci, patronne. Une fois que je vous ai dit ça, je vous préviens quand même, la semaine prochaine, je pars au ski.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Éric Ciotti demande que les manifestations des Gilets jaunes soient interdites. Manifestations qui, rappelons-le, ne sont pas autorisées. Donc, en gros, Éric Ciotti demande qu'on interdise quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc, voici en exclu les prochaines déclarations d'Éric Ciotti. Il faut interdire la guerre, interdire la pollution et les embouteillages. Voilà, c'est dommage qu'il soit si petit, Éric Ciotti, sinon il aurait pu être Miss France.
La ministre de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, déclare « J'échange tous les jours par SMS avec Cyril Hanouna ». Finalement, on l'a trouvé, le fameux gouvernement resserré qu'on appelle de nos voeux depuis des décennies. Un gouvernement avec deux pôles, un pôle économie et culture dirigé par Cyril Hanouna et un pôle sécurité-défense entre les mains d'Alexandre Benalla. Il n'est pas beau le Nouveau Monde ?
Un médecin serait soupçonné d'être le père de 200 enfants après avoir non respecté les règles de don de sperme. Alors que les choses soient très claires, primo, je ne suis pas médecin. Secondo, je ne savais pas du tout qu'il y avait une règle.
Un médecin serait soupçonné d'être le père de 200 enfants après avoir non respecté les règles de don de sperme. Avec autant de semences, c'est plus médecin qu'il doit faire, c'est consultant chez Jardiland.
Football, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a déclaré « Je ne veux pas lâcher avant d'avoir remporté la Ligue des Champions ». Là, on peut parler d'exploit puisqu'il sera le premier Français à vivre jusqu'à 150 ans. Après le caillassage d'un fourgon de CRS à Lyon, réaction très émue de Frédéric de Carglass. Attention, un impact, une fissure sur votre pare-brise, ça peut avoir des conséquences. En ce moment, pour toute intervention vitrage, on vous offre les balais d'essuie-glace. Alors n'attendez plus, une manif, des gilets jaunes, Carglass répare, Carglass remplace.
Donald Trump s'offre un simulateur de golf à 50 000 dollars à la Maison Blanche. 50 000 dollars pour simuler... Quand je pense que ma femme fait ça gratuitement.
Ce week-end, une bombe datant de la guerre a été neutralisée à Paris quand j'ai lu ça. Une bombe datant de la guerre a été neutralisée. J'ai eu très peur, mais ouf, Anne, il ne s'agissait pas de vous.
L'information révélant que le vin serait bon pour perdre du poids s'est révélée finalement être une fausse nouvelle, une fake news. Gérard Depardieu aurait confirmé, effectivement, boire du vin pour maigrir, ça marche pas du tout.
Europe. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Mérou, Didier Port et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un magnifique séjour dans un club Bellambra en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Bérou, Didier Port. Christine, mais vous êtes toute pimpante ce matin.
Ah bon ?
Oui ?
Ah bah je la prends.
Vous avez dormi un peu ?
Non, mais c'est l'entraînement.
Je sais pas ce que vous prenez, mais il faut en prendre moins.
C'est vrai, vous êtes toute fraîche.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, ma fille m'a réveillée à 5h30 et du coup, j'ai eu le temps de repasser quelque chose de joli. Parce que d'habitude, je mets des trucs qui se repassent pas. Et là, j'ai pu mettre ma belle chemise.
Ah ouais, ça on voit pas la différence.
Okay. C'est pour ça.
C'est le moment de d'autres jeux, Didier Porte. Comment s'intitule ce jeu ?
Qui a la réponse
Ça fait que 4 mois.
Devinez qui je suis.
J'ai très investi.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué le week-end. Cette semaine, tenez-vous bien, tentez de gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 56 destinations en France avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France, les plus beaux endroits de France, un personnel qualifié et professionnel, des logements chaleureux, une cuisine savoureuse et variée, des enfants comblés de 3 mois à 17 ans, Christine, des animations, du sport, des activités pour tous, Bellambra Club, créateur d'émotions, un séjour en demi-pension d'une valeur de 2000 euros.
Quand même, hein.
Plus d'infos sur www.bellambra.fr. Alors on joue avec Laurence, bonjour Laurence.
Bonjour.
Bonjour Laurence.
Bonjour Laurence, vous avez 51 ans, vous êtes aide-soignante dans l'Ain, c'est ça, à Châtillon-sur-Chalaronne.
Exactement, oui.
Vous êtes divorcée, vous avez deux filles de 21 ans et 18 ans, et vous ne cherchez pas d'homme, c'est ça ?
Voilà.
Vous en avez marre des hommes ?
Non, j'aime bien mon célibat.
Ah, vous aimez bien le célibat, pourquoi ?
Voilà, j'adore être seule.
Ah.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je sais pas, je suis bien.
C'est marrant, j'ai pas de rebond là-dessus. Hein.
Et c'est une décision à vie. À vie, vous voulez plus jamais d'homme. Plus jamais.
Ah non, c'est pas à vie, c'est pour
ah,
c'est juste.
Ah, c'est une petite jachère.
Ah oui, ça fait combien de temps
ça fait deux jours.
C'était quand la dernière fois, Laurence ?
Mon divorce, il date de 2010.
Ah, quand même.
Ah ouais,
bah il est temps de remonter à cheval, là, peut-être.
Oh non. Quelle élégance.
Et donc, ça fait 9 ans que vous faites le point sur vous-même.
Ouais, à peu près, ouais.
Ah ouais, à peu près.
À peu près,
en même
temps. Ah, il y a eu des petits week-ends.
En même temps.
Ah, en même temps, quoi ?
En même temps, il faut tomber amoureux pour avoir envie d'être avec quelqu'un.
Ah bah, c'est absolument.
Vrai. Oh, Ben H, c'est pas nécessaire pour lui.
Vas-y, à qui le dites-vous, là.
Voilà.
Et puis, alors, vous êtes aide-soignante en EHPAD, Laurence ?
Ouais.
Et les papys, non ?
Ils sont beaucoup trop vieux.
Ah. Vous n'aimez pas l'expérience ?
Non, mais c'est sûr que c'est pas propice de travailler en EHPAD pour rencontrer un homme, à part les fils des résidents ou des résidents.
Ah bah non, pas, ça n'est pas du tout, non, ouais. Bah, non.
Ah non, mais
et
les...
Puis même.
Même quoi ?
Non, ouais, les fils sont déjà aussi plus âgés que moi, hein.
Ah, il faudrait les petits-fils, en fait.
Faut attendre la fête des grands-pères pour...
Ouais.
Bon, Laurence, vous savez que vous en avez un très beau cadeau à gagner, là.
Oui, j'ai entendu ça.
Ben oui, 2000 euros, Bellambra.
Ouais.
Est-ce qu'on centre ?
Laurence, qu'est-ce que vous dites le matin quand vous rentrez dans la chambre des personnes âgées ? Vous dites quoi ?
Bonjour déjà.
Oui, mais...
Est-ce que vous avez bien dormi ?
Dis donc, ça sent la pisse.
Oh non !
Non.
Excusez-nous, Laurence. Hein.
Laurence ?
Oui.
Vous jouez avec qui ?
Avec Didier Porte.
Oh là là !
Oh là là, mais vous avez
grosse prise de risque. Vous avez le goût du risque, Laurence.
Il a déjà gagné.
Bon, allez, non, ça va le faire.
Ça va le faire. Attention,
bravo, Laurence.
Des personnalités qui ont marqué le week-end. Attention, top chrono.
Philosophe qui a subi des insultes antisémites. Très bien. Ex de François Hollande qui a écrit un bouquin. Merci pour ça. Voilà. Un tennisman vainqueur du tournoi ATP de Rotterdam. C'est pas grave. La mère de Paris.
Anne Hidalgo.
Le maire de Nice, des Républicains.
Comment il s'appelle ? Je passe, ça ne revient pas.
Comédien formidable qui jouait dans Trois hommes et un couffin, qui a 73 ans, qui vient d'avoir 73 ans.
Comment il s'appelle ? C'est l'humour là. Ah, je passe.
Une.
Oh là là. Didier.
Ah bah,
oh Didier.
Non,
si
c'est pas
tu
facile,
savais,
hein. C'était
tout
pas
le
facile.
Mal que tu nous fais. Bon, Laurence, bon, c'était pas facile, mais bon, alors c'était Gaël, mon fils, vous n'avez pas trouvé, Christian Estrosi, le maire de Nice, et André Dussolier, il fallait peut-être dire aussi.
Tanguy. J'en avais un autre en tête.
Ouais, vous aviez Boujna en tête, ouais. Alors, trois bonnes réponses.
C'est un bon début.
C'est quand même pas.
C'est pas foutu.
C'est pas gagné.
Il y en a qui ont déjà gagné avec trois.
On va voir comment se débrouille Adrien. Bonjour, Adrien.
Bonjour.
Bonjour Adrien.
Adrien, vous avez 29 ans, vous êtes agriculteur à Vic-Exemplaine dans le 36. C'est où le 36? Du côté de Châteauroux, c'est ça?
C'est à côté de Châteauroux.
D'accord. Et alors, vous travaillez, vous élevez des vaches charolaises, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça. C'est ça.
Et avec
Christine
Béroux. Avec mon père.
Avec votre père, d'accord. Et ouais. Vous avez deux enfants et vous avez rencontré votre femme...
Sur M6, comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce que tu veux à un moment donné, hein. Faut faire simple et efficace.
Vous l'avez rencontrée.
Elle est comment, Karine Le Marchand, dans la vie?
En fait, j'ai travaillé chez son père, qui est agriculteur. J'ai travaillé pour lui pendant que j'étais étudiant. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré.
Elle est fille d'agriculteur comme vous.
C'est ça.
Et du coup, vous élevez les vaches ensemble?
Non, du tout. Elle est aide-soignante.
Elle est aide-soignante, d'accord. Alors, vous avez vu que tous les espoirs sont permis parce que Laurence n'a fait que trois bonnes raisons. Vous en faites quatre. Vous partez une semaine avec Bellambra. Vous êtes prêt à jouer?
Eh ben, je suis prêt.
Vous choisissez qui dans cette équipe brillante?
Anne Romanoff.
Ah, c'est là que tout
Didier
s'arrête.
Porte à gagner.
Bravo Didier. Bravo. Gagner avec 3 points, c'est bien.
Je suis pas très bonne, moi, là-dedans. Attention. Oh. Attention, top chrono. Un patineur très célèbre, connu pour son franc-parler, l'anime des émissions avec Ninot Seulement Fort. Il se présente en Espagne, c'est l'ancien Premier ministre, il est beaucoup critiqué.
Manuel.
Oui, il est maire de Lyon, il était ministre de l'Intérieur, il est un petit peu âgé. Maire de Lyon depuis des années. Oui, très bien. C'est un judoka qui a fait de la politique à un moment, il est très massif. Oui, très bien. Elle était aux Energy Music Awards, Nikos n'a pas réussi à prononcer son nom, ça fait un scandale. Elle s'appelle vous non plus. C'est une comédienne les plus célèbres qui a une brune qui a présenté le festival de Berlin hier soir.
Sophie Marceau.
Non, pas Sophie Marceau.
Le patient anglais. Bah...
Mesdames et messieurs, Anne Romanoff a gagné au jeu.
C'est facile. Non, c'était pas du tout facile.
C'est beaucoup plus facile que moi.
Pas du tout, vive d'esprit et très rapide.
Mais ça vous met dans un état de stress.
Ah, mais moi je suis toujours à fond dans les jeux. C'était Aya Nakamura que vous n'avez pas trouvé.
D'accord.
Et Juliette Binoche. Bon, quatre bonnes réponses.
Bravo Adrien.
J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, Adrien. Vous gagnez un séjour d'une semaine pour quatre personnes à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 56 destinations en France avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Les plus beaux endroits de France. Un personnel qualifié, professionnel, des logements chaleureux, une cuisine savoureuse et variée, des enfants heureux de 3 mois, 17 ans, des animations, du sport, des activités pour tous. Bellambra Club, créateur d'émotions, un séjour en demi-pension d'une valeur de 2000 euros. Plus d'infos sur www.bellambra.fr.
Yes.
Voilà, vous allez partir où, à la mer ou à la montagne?
On verra, parce que je pars déjà à la montagne dans un mois, donc on verra, peut-être à la mer du coup.
Et Pierre, comment vous faites quand vous partez? Vous laissez les vaches?
Oh, il vient avec.
Ah, c'est votre père qui garde les vaches?
C'est ça.
Il est gentil, votre papa.
Oui. Après, peut-être que Christine Béroux veut venir m'aider un peu.
Ça provoque.
On vous invite souvent à la campagne?
Je suis végane, souvent les agriculteurs...
On peut s'en occuper.
Bah oui. Oula. Et du coup, oui, je suis souvent invitée dans les fermes, oui.
Et vous y allez?
Bah non, je sais pas encore. Un jour, je vais prendre le temps, oui. Bah oui, ça fait partie de mes projets. Bah oui.
Avec le mariage.
Mais je suis déjà marraine d'une ferme qui s'appelle la Ferme des Rescapés. J'en profite pour en parler. Et qui sauve les vaches de l'abattoir. Mais c'était peut-être pas le bon moment pour en parler. Donc je suis désolée.
Je ne crois pas qu'il ait envie que vous sauviez ces vaches.
C'est pour ça. On va parler d'autre chose. Voilà, bravo Adrien. Vous allez passer des bonnes vacances. Super.
Adrien, bravo. Laurence, désolée.
Bah tant pis. Hein.
Ça s'est joué à un point. Hein.
Ouais.
Et puis c'est un choix.
Non, c'était beaucoup plus dur pour nous, Laurence. C'est truqué.
Enlevez ce gilet jaune, Didier.
Laurence, vous pourrez rejouer avec nous d'ici un mois, comme ça.
Très bien, d'accord.
Hein, on vous
passez une bonne journée.
On vous embrasse tous les deux.
Au revoir.
Bon bisous, Laurence.
Au revoir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe avec Christine Mérou, Jean-Philippe Vizini, Ben H. Didier Porte, qui nous parlera de l'actualité politique de ces derniers jours.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Romanov sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Mérou, Didier Porte.
Ouais,
alors hier, Nike a mis en vente aux États-Unis son nouveau modèle de basket connecté qui se sert automatiquement autour du pied de leur propriétaire. Vous aimez ce genre de gadget? Est-ce que vous avez des objets connectés chez vous, Jean-Philippe?
Moi, oui, mon gamin, il a voulu les chaussures qui font de la lumière sous les pieds, vous connaissez?
Oui.
Bah, il est sorti jouer dans le jardin, il y a eu de l'orage, bah, depuis il chante du Claude François.
Didier?
Alors, me demander si j'ai des objets connectés chez moi est à peu près aussi pertinent que de demander à un aveugle s'il possède une paire de jumelles. Cela dit, je vous répondrai que j'ai une paire de tennis, mais qui n'ont pas été connectés à mes pieds depuis de longues années.
Didier Porte, est-ce qu'il y a des infos qui ont attiré votre attention ce week-end?
Bah, comme pour vous tous autour de cette table, je n'en doute pas. L'événement de la semaine, c'est naturellement l'adoption de l'amendement Ciotti par l'Assemblée nationale. Un amendement qui va rendre obligatoire la présence dans toutes les classes de France, de la maternelle au lycée, d'un drapeau tricolore et d'un autre européen. Histoire d'apprendre les bonnes bannières à nos petits Gaulois réfractaires. Et ce n'est pas tout. Éric Ciotti souhaite également que tous les élèves soient dans l'obligation d'assister au moins une fois par semaine à une levée solennelle du dit drapeau. Je parle bien sûr du tricolore. L'européen, vous vous doutez bien que le député des Alpes-Maritimes s'en préoccupe autant que de sa première peau de chamois pour crâne chevelu qui ne l'est plus. Et qui dit levée des couleurs dans toutes les écoles et tous les lycées de France dit explosion du marché de la trompette qui vient donc s'ajouter à celui du drapeau. Eh ben oui, une levée des couleurs sans trompette, c'est comme un sapin de Noël de l'Élysée sans Alexandre Benalla déguisé en Père Noël. Ça n'existe pas. Et puis, alors j'allais oublier, nos jeunes devront aussi entonner la Marseillaise au moins une fois par semaine, comme la trompette. Objectif de cet amendement, selon son auteur, apprendre à nos écoliers à aimer et faire aimer la France dès leur plus jeune âge et développer leurs sentiments patriotiques afin de créer des digues contre les multiples fléaux qui menacent notre pays. Fin de citation. Créer des digues, carrément. C'est ambitieux et surtout pas encore financé. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dû renifler le traquenard car il a indiqué qu'il était partant pour financer la mesure à condition qu'on utilise des affiches de drapeaux plutôt que des drapeaux en vrai. Oh le rapia. Je sais comment ça va se terminer. Hein. Il y aura peut-être de vrais drapeaux, mais sur l'étiquette au bout de la hampe, il y aura écrit « Made in Bangladesh ». Il va prendre un sacré coup de sentiment patriotique de nos têtes blondes. Créer des digues, rien que ça. Cela dit, ça me rappelle quelque chose, cette histoire de digues.
La digue du cul, je rencontre une belle.
Oh, Didier, non, mais arrêtez, enfin, stop, Didier, cette chanson est pathétique.
Mais allez, comment ça, pathétique? C'est notre patrimoine, chère madame.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Didier Porte, Christine Mérou, Ben H et nos invités Daniel Rousseau et Didier Bénureau pour la pièce Le Crédit, actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H,
Christine
Mérou et nos deux invités qui viennent de nous rejoindre. Ils enchaînent les succès au cinéma, à la télé, sur scène. Pour les applaudir actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse où ils se donnent la réplique dans la pièce Le Crédit. J'accueille le banquier inflexible Daniel Rousseau et son client qui lui réclame désespérément un crédit, Didier Bénureau.
Bonjour.
Alors c'est une comédie étrangère en fait qui a été adaptée par Eric Sivagnon.
Voilà, exactement, une comédie espagnole.
Ouais, et qui a cartonné en Espagne.
Absolument.
Ouais.
Et en Italie.
Et ça commence bien.
Et ça commence très bien.
En France, oui.
Donc c'est une pièce à tiroir. C'est donc quelqu'un qui va voir son banquier pour avoir un crédit. Donc
et qui n'a pas un rond. Et qui
ça c'est vous. Vous êtes le client, oui. Didier Bénureau.
Oui.
Et puis Daniel Rousseau vous refuse le crédit.
Absolument.
Ça vous est déjà arrivé qu'on refuse un crédit, Daniel Rousseau?
J'en ai jamais demandé.
C'est vrai?
Non.
Pourquoi?
Parce que justement,
quand
on voit la pièce, il vaut mieux pas.
Et vous, Didier Bénureau, ça vous est déjà arrivé qu'on refuse?
Ah oui, bien sûr. Plusieurs. Ouais.
Plusieurs crédits?
Bah oui, ma maison s'est agrandie. Il a fallu à chaque fois
voilà, c'est
des crédits. Mais on me les a accordés.
Ah, vous les a accordés?
Et d'ailleurs, je me suis senti très riche un jour parce que le patron de la banque, le directeur de la banque m'a filé son portable. Et moi qui suis fils de pauvre... le fait qu'un directeur de banque me donne son portable, je me suis dit, Seigneur, t'es riche. C'est vrai, c'est rare.
Mais
là, le type n'a pas un rond, visiblement, il n'a pas de revenus, il est complètement à la ramasse et il bluffe.
Et donc, il veut avoir 3000 euros, vous lui refusez. Et à partir de là, ça part en live.
Ça part en folie, là, parce que, en définitive, il va trouver le moyen. Il se rend compte que le banquier a des failles. Et le banquier va lui donner les armes, en plus, lui-même, pour qu'il arrive à ce qu'il ait ce crédit. Enfin, s'il l'a, je ne veux pas dire dans la pièce s'il l'a ou pas, parce que c'est vraiment une pièce où d'un seul coup, tu penses que tu vas dans une direction et hop, ça part dans une autre direction.
Il y a plein de rebondissements dans cette pièce. Et les gens rient beaucoup.
Oui, absolument. Mais c'est très surprenant. Bah
parce qu'il prend des arguments insensés pour avoir son crédit.
Il dit quoi, par exemple ?
C'est-à-dire que ça nous embête de dévoiler l'argument principal, parce que les gens sont très très surpris de ce qu'ils proposent.
Ah oui, non.
Il y a des banquiers qui viennent vous voir la pièce Le Crédit.
Il y en a qui vont me lire là.
Ah bon ?
Ça y est.
Vous avez invité.
J'ai eu des demandes.
Vous avez invité votre banquier Daniel Rousseau ?
Non, pas encore.
Et vous, Didier Benureau, vous avez invité votre banquier à voir la pièce ?
Non.
Mais moi, j'ai son portable. C'est dommage, vous avez son portable.
Ah ouais. T'as gardé son portable en plus ?
Ah bah bien sûr.
Enfin, c'est pas vrai.
Vous pouvez le donner en direct là, parce que nous aussi, on a besoin d'un peu d'argent. On est un peu ric-rac en ce moment.
Il faut bluffer, il faut aller voir son banquier et trouver les arguments.
Ah bah moi, je suis pas bon au poker, moi, parce qu'il m'a rien donné, moi.
Non, mais il faut voir la pièce avant. Avant de demander le crédit, il faut voir la pièce. Ça donne des idées quand même.
Donc on va voir la pièce.
Faut dire aux Français qui veulent des crédits, voilà. Allez voir la pièce.
Ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'il y a vraiment du fond, et c'est-à-dire que ça critique aujourd'hui la difficulté d'obtenir un crédit. L'auteur espagnol a fait j'ai été regarder un peu sur internet tout ce qu'il avait fait. Il a fait des films plutôt avec des sociaux.
Ouais,
il y a toujours un
fonds
social, des comédies sociales. Et là, ça dénonce le système bancaire dans lequel, quand on a peu d'argent, quand on gagne peu d'argent, c'est très difficile d'avoir un crédit. Je crois que c'est de plus en plus difficile.
Justement, Christine Béroux a quelque chose à vous dire.
Oui, pardon, déjà, je suis très impressionnée d'être face à deux grands hommes de théâtre. Les hommes de théâtre ont toujours beaucoup de succès auprès des femmes. Bah, si, parce que vous apparaissez après les trois coups et ça change des hommes qui disparaissent après le premier. Bon. Alors, vous jouez actuellement dans la pièce Le Crédit. Et comme dans cette émission, je suis un peu la caution intellectuelle et pédagogique. Pourquoi ce blanc ? Alors, je me suis dit, profitons-en pour nous pencher sur la question comment obtenir un crédit ? C'est le retour des... Tuto de Christine sur France Culture, ils sont jaloux. Bon, alors déjà, précisons que dans la mesure du possible, il faut éviter de prendre un crédit, bien sûr. Moi, j'en ai jamais pris un, Anne le sait, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'hier, elle me disait « Christine, dans le métier, tu n'as aucun crédit ». C'est vrai. Comment le savait-elle ? Mais voilà, l'autre jour, j'étais chez le dentiste et il m'a fait très très mal et je lui ai demandé « Pourquoi vous ne m'avez pas fait d'anesthésie ?» Et il m'a répondu « J'y ai pas pensé, vous êtes la première personne à souffrir en lisant un devis. » Bref, je vais donc faire un crédit pour me refaire les dents et j'appréhende. Quand j'ai ouvert mon compte à la banque, j'ai bien expliqué à mon banquier, je travaille sur Europe 1, Canon Manoff, je fais plein de stand-up et d'autres trucs. Riche de ces informations, il a écrit dans mon dossier que j'étais étudiante. Du coup, j'ai cherché comment le convaincre de me prêter de l'argent. Alors déjà, c'est comme un jeu télé, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Par exemple, je suis humoriste. Je suis chef de projet dans le domaine de la culture. Voilà, il n'a pas besoin de savoir que je suis moi-même le projet dont je suis chef. Hein. Je peux aussi dire que je suis CDI, hein, contrat d'intermittent. Ensuite, il y a des phrases à éviter. J'ai investi dans le Bitcoin. J'ai une voiture diesel. Je dépense très peu d'argent dans les loisirs. Oh bah j'ai plus le temps depuis que je suis gilet jaune. Ensuite, il ne faut pas hésiter à ruser, quitte à mentir sur vos notions en économie. Pardon, je suis un petit peu fatiguée, j'ai dû mettre mon réveil à 3h cette nuit pour ne pas rater l'ouverture de la bourse de Tokyo. Quoi, le Dow Jones ? Ah bah je ne sais pas, à part Pussycat, je connais très mal ces chansons. Oui, alors mon problème, c'est que je confonds le Dow Jones et le Tom Jones. Hein, pardon, je suis bête. Quoi ? Alors, j'ai un ami, il a une technique, il dit toute la vérité à son banquier, et quand son banquier lui accorde de l'argent, vous savez ce qu'il lui dit ? Il lui dit merci papa. Bon, ça s'est mal terminé avec mon banquier. Il m'a dit je peux vous avoir un crédit à taux zéro. Je lui ai dit c'est quoi ? Il m'a dit c'est sans intérêt. Je lui ai dit mais alors si c'est sans intérêt, pourquoi vous m'en parlez ? Voilà, j'ai conscience que mon tuto. Merci Benach. Alors j'ai conscience que mon tuto est moins informatif que d'habitude. D'habitude, je sais que cette chronique change la vie de nos auditeurs. Hein. C'est pourquoi je conseillerais plutôt, si vous voulez prendre un crédit, allez voir la pièce Le Crédit !
Wow. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Philippe Vizili, Benach, Christine Béroux et nos deux invités Didier Benureau et Daniel Rousseau, venus nous parler de la pièce Le Crédit, actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse dans une mise en scène d'Éric Sivagnan.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, c'est lundi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Mérou et nos deux invités Didier Benureau et Daniel Rousseau. Vous nous parlez de la pièce de théâtre Le Crédit à la Gaîté Montparnasse. Et alors donc, et vous, ça se passe bien? Vous connaissiez avant de jouer cette pièce ensemble, Daniel Rousseau et Didier Benureau?
Eh ben, les brèves de comptoir.
On se connaissait comme ça, on s'était croisés, mais on se connaissait pas bien, non?
Non.
Et là, maintenant, ça se passe bien, le couple.
Ouais, c'est génial.
Ouais, on s'entend bien.
Ouais, vraiment.
Bah, il faut vraiment qu'on joue ensemble. Et c'est vrai qu'il faut, quand je dis s'entendre, il faut s'écouter, il faut...
S'aimer.
Il faut... Ouais, il faut...
Non, puis travailler ensemble.
Il faut être complice, quoi, vraiment.
Moi, je l'ai averti avant, je lui ai dit, tu sais, moi, je viens pas avec mon attaché caisse, je viens pas jouer, puis je m'en vais. Je veux dire, tous les soirs, il faut que ce soit au max, quoi, que les gens aient le maximum. Et je cherche toujours des détails qui font que... Je me mets, par exemple, sur une phrase, je lui dis, tiens, je vais enlever ce mot-là, fais gaffe. On va voir ce que ça donne et donc si ça répond, donc on le garde. Voilà, je travaille tous les soirs, quoi.
Vous êtes très perfectionniste, Daniel Rousseau.
Ah oui, ah oui, ça c'est ma passion.
Ouais.
Absolument, ça tient à rien, un rire, ça tient à rien, vous le savez.
Et Didier Benureau, vous êtes perfectionniste aussi?
Plutôt, oui, j'aime bien travailler beaucoup en amont. Et bah oui.
Non, je suis content parce qu'il est client, il est client de ça.
C'est faut faire le maximum pour que ça marche et il faut que tout s'entende, le sens, le côté l'humour, il faut que tout ça ressorte et c'est un travail.
Et là, vous doutiez que cette pièce allait marcher comme ça ou...
Ben, on savait déjà que ça faisait un tabac en Espagne.
Ouais.
Donc c'est déjà une bonne nouvelle, quoi, hein, parce qu'une pièce qui fait un tabac, normalement...
Par contre, il faut vous méfier des Benureau, parce que Daniel Rousseau fait des blagues à ses partenaires.
Oui, ça m'arrive.
Il ne m'a pas trop fait de blagues.
Non, pour la dernière, il paraît qu'une fois, vous avez collé tous les accessoires de votre partenaire. Avec de la colle.
Non, mais c'est Henri Tizot.
Ouais.
C'est Henri Tizot, et il vient me voir dans la loge, il fait... Daniel, on fait pas de conneries. Hein.
Ouais.
On fait pas de conneries. Pour la dernière, on fait toujours des conneries. Alors, ce qu'on va faire, là, on va bien la jouer. Hein. Ah, la dernière, on la joue bien. J'ai dit, d'accord, t'inquiète pas, Henri. Aucun problème. Et c'est vrai que j'avais déjà préparé le coup. J'avais un pot de colle. Et j'ai collé tous les accessoires. Ce qui fait qu'il démarre le spectacle sur un coup de téléphone. Et fait, pourquoi il ne vient pas le téléphone? Et pourquoi il ne s'ouvre pas le tiroir? Et le stylo? Pourquoi il est collé, le stylo? Parce qu'il parlait sur scène en même temps. Donc c'était un truc de fou, quoi.
Et une fois aussi, vous avez mis un micro près d'un évier en coulisses. Et vous faisiez couler de l'eau. Et le comédien croit qu'il y a un problème de canalisation.
Oui. C'était toujours Henri Tizot.
Ah, toujours Henri Tizot, le
pauvre.
Oui,
parce que j'avais vu qu'il y avait un robinet. Alors, chaque fois qu'il prenait le téléphone, et il disait, mais il y a un problème de canalisation. Vous entendez, là, il y a de l'eau qui coule. J'ai fait, ah non, Henri. Mais si, il y a de l'eau qui coule, je vous le dis. Écoutez, quand je téléphone, il y a l'eau qui coule. Alors, il a fait venir les directeurs du théâtre. Il fait, écoutez bien, vous allez voir, quand il y a un problème de canalisation dans le théâtre. Il faut faire quelque chose. Et alors, et moi, bien sûr, je ne fais pas couler l'eau quand les directeurs sont là. Et à ce moment-là, il était en train de jouer. Il sort d'un seul coup, il fait, eh ben, je vais vous dire, quand vous êtes là, il n'y a pas d'eau. Et quand vous n'êtes pas là, il y a de l'eau.
Merci Daniel Rousseau et Didier Benureau d'être passés nous voir. On rappelle votre pièce Le Crédit, une pièce de Jordi Galceran qui a cartonné en Espagne et en Italie, actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans quelques instants et c'est Anne-Claire Coudray qui sera notre invitée.
Midi 30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H,
toujours là.
Bonjour. Et notre invité qui est un des visages du 20h et du 13h sur TF1 chaque week-end. C'est une figure incontournable de nos week-ends. Elle est une des journalistes phares des périodes électorales. Que ce soit face au président ou à Johnny Hallyday, plusieurs de ses interviews sont déjà rentrées dans l'histoire de la télévision. Elle vient nous parler du livre « Elles risquent leur vie », dont elle est l'une des 5 contributrices, mais aussi de la nouvelle rubrique factuelle sur TF1. Anne-Claire Coudray est avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Anne-Claire Coudray.
Bonjour, merci de m'inviter.
Vous êtes une des reines du 13h et du 20h. Moi, je me présente, Anne Romanoff, reine du 4h et des bains de nuit. Vous pensez que vous êtes la personne la mieux informée de France après le ministre de l'Intérieur, Anne-Claire Coudray?
Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, je regarde beaucoup l'actualité. Je la fais, je la lis, je l'écoute. Donc oui,
c'est
j'ai
une passion.
Sans doute une petite... Oui.
Chaque week-end, Anne-Claire Coudray, vous êtes regardée par 6 millions de téléspectateurs.
Ça même un peu plus. Hein. Vous pouvez en monter
7,
d'un million
7
parfois.
Millions, et c'est approximatif. Ultimativement, l'audience de notre émission à 6 millions près.
Oui.
C'est ça.
Vous avez jamais peur de faire un lapsus
Si, tout le temps. tout le temps, surtout qu'on est en direct, donc c'est compliqué.
Non, vous avez peur de l'addiction,
du dérapage? J'ai pas peur sans cesse, mais on fait attention.
Vous êtes parfois stressé?
J'ai parfois dérapé par le passé.
Dérapé, c'est-à-dire?
Pas souvent, non, des petites blagues qui tombent à plat, donc on fait attention.
On a l'habitude ici des blagues qui tombent à plat.
Oui, voilà. Il y a une caisse de résonance dans le journal qui fait que on évite quand même.
Alors, ces 7 millions de personnes, vous y pensez ou est-ce qu'au contraire, il faut surtout pas y penser? Finalement, ils vous voient, mais vous ne les voyez pas. Il y a des moments où vous voudriez être invisible?
En fait, on s'y fait très bien. Moi, j'ai choisi de travailler dans un média de grande écoute précisément parce que j'avais envie de parler au plus grand nombre. Donc, c'est 7 millions. Au contraire, je suis ravie. J'aime bien les rencontrer de temps en temps quand je sors quand même de mon studio.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Anne-Claire Coudray?
C'est
bonjour.
Très positif. Voilà, bonjour déjà. Non, c'est très positif en fait, comme on fait de l'actualité, de l'info, c'est très bienveillant. Alors au début, quand j'ai commencé, on me regardait genre, elle me dit quelque chose, on s'est pas déjà rencontré quelque part. Et puis là aujourd'hui, ils connaissent mon nom, ça me fait plaisir. Voilà. Et du coup, on discute des gilets jaunes, on discute de l'actualité, on discute de plein de choses.
Ce que les gens ne savent pas forcément, Claire Coudray, c'est que vous n'êtes pas juste une jolie journaliste qui présente le journal de TF1, vous avez été reporter de guerre.
Oui, c'est pour ça que le contact avec les gens me fait pas du tout peur, je pense. C'est parce que je suis même très contente, encore une fois, d'y retourner de temps en temps.
Ouais. Donc là, il y a ce livre, Elles risquent leur vie, 5 femmes reporters de guerre témoignent. C'est un livre collectif aux éditions Talendier avec Patricia Lémonière, Anne Barrier, Liseron Boudoul, Anne-Claire Coudray, Marine Jacquemin. C'est pour raconter votre expérience de reporter de guerre, ce livre?
Voilà, c'est ça. En fait, on nous a sollicité déjà parce que on est toutes de TF1 ou anciennement de TF1 comme Marine Jacquemin. Et je crois que TF1 a très vite donné aux femmes la possibilité d'aller sur ces terrains-là qui étaient sans doute réservés davantage aux hommes. Et c'est vrai que...
C'est une drôle d'idée quand même de vouloir être reporter. Moi qui suis très froussarde, alors ça ne me viendrait jamais. L'idée.
Non, alors justement, c'est quand on fait ce métier, je pense qu'on a envie de se confronter à ce genre de situation très intense qu'on ne rencontre pas forcément dans sa vie.
C'est le côté aventurier qui vous a plu?
C'est le côté aventurier,
intense,
le côté
émotion.
J'avais envie aussi de me confronter à des émotions très 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 complexes, qu'ont encore une fois la peur, le risque, la prise de décision.
Enfin, il y avait Koh-Lanta, c'était moins dangereux peut-être.
Oui, mais ils m'ont pas prise.
Express,
je travaille à TF1, j'ai pas le droit d'y participer.
Okay.
Non, mais il y avait.
En fait, automoto, c'est pas mal aussi. Hein.
Il y avait cette dimension-là, voilà. Et puis après, on a envie de se confronter à des situations qu'on comprend pas.
Vous avez vécu des choses dangereuses aussi, Anne-Claire Coudray.
Oui, bien sûr. Mais
vous avez eu peur, j'imagine.
Après, le but, c'est de gérer ce risque, c'est de l'évaluer. On part pas en se disant qu'on va pas revenir. À chaque fois. Et puis on est une équipe, donc il n'est pas question de prendre des décisions inconsidérées. Donc ça aussi, je pense
mais
que ça.
Il y a eu des moments où vous avez dû avoir peur.
Il y a des moments où vous pensez que ça peut déraper, oui, ça c'est sûr. Après, c'est pas ceux que vous gardez le plus. Je crois que justement, on n'a pas forcément
ça.
Envie. Mais il y a des checkpoints en Afrique où on se dit que tout est possible. Oui.
Checkpoints, c'est-à-dire on vous contrôle ou...
Oui, c'est des barrages en fait, dans une situation de quasi-guerre civile avec deux camps qui s'affrontent et des milices très énervées.
Vous êtes avec votre petit casque, vous dites je suis TF1.
On est dans
TF1.
Nos voitures. Non mais c'est ça, on essaye de trouver une porte de sortie ou en tout cas un terrain de dialogue possible. Et c'est pas toujours facile parce qu'en face on n'est pas forcément dans un état toujours normal. Ce sont des hommes qui font la guerre et dans des pays où le rapport à la vie n'est pas du tout le même que chez nous. Donc oui, c'est sûr. Mais encore une fois, on essaye... toujours d'être bien accompagné en fait, c'est ça.
Ça vous manque les reportages de guerre, Anne-Claire Coudray?
Le fait de me confronter au terrain, d'aller voir ce qui se passe, et c'est vrai que cette adrénaline-là, elle me manque. Je l'ai remplacée par une autre tout aussi passionnante, mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis que ces 15 années de terrain que j'ai connues, elles ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et je trouve que c'est une de mes parts les plus intéressantes et les plus belles. Oui, ça c'est sûr.
Et du coup, il paraît que quand vous lancez des reportages d'autres reporters, vous êtes très attentifs, vous les appelez avant pour savoir dans quel état d'esprit ils ont fait le reportage. Parce que vous avez souffert parfois, vous, de vous fatiguer pour un reportage et que ce soit lancé un peu comme ça.
C'est vrai. C'est vrai que parfois, sur des situations difficiles, on ne se rend pas toujours compte qu'à Paris, on est très très loin de ce que vous faites. Vous venez de vivre une journée incroyable. Vous avez eu peur de ne pas revenir à temps. Vous avez monté dans des conditions de dingue, vous avez arraché vos interviews, il a fallu attendre des heures pour pouvoir passer, et faire 100 mètres par exemple, et puis c'est vrai que le rédacteur en chef te dit, oui, peut-être que ce sera demain, parce que là on est un peu charrette, tu comprends, il y a le Premier ministre.
Il y a la météo, il neige.
Mais c'est vrai que je comprends complètement maintenant que je suis à cette place-là, que c'est aussi ce qui m'intéressait dans la présentation, c'était de prendre de la hauteur et de voir l'actualité de façon diverse. Mais c'est vrai que quand on est sur le terrain, qu'on est fatigué, qu'on a pris des risques, qu'on n'est pas chez soi, qu'on est parti depuis 15 jours, Il faut se sentir soutenu. Et moi, j'essaye d'avoir ce souci-là, en tout cas.
Bravo. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Anne-Claire Coudray, venue nous parler du livre « Elle risque leur vie », un ouvrage consacré aux reporters de guerre. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Béroux.
Bonjour.
Et notre invitée Anne-Claire Coudray. Alors la Bretagne est très importante dans votre vie, Anne-Claire Coudray. Vous êtes née à... c'est Locmaria quoi?
Alors je suis née à Rennes, mais je suis arrivée à Locmariaquère, qui est à l'entrée du golfe du Morbihan quand j'avais quelques mois. Donc j'y ai vraiment passé toute mon enfance.
C'est là où vous vous ressourcez?
Merveilleuse, oui. J'y ai encore ma grand-mère, mes parents.
De 91 ans?
92 maintenant.
92 ans. Et quand vous allez là-bas, la première chose c'est votre grand-mère, après vos parents et après la mère.
Oui, voilà, c'est ça.
Et les crêpes?
C'est dans cet ordre-là. Et les crêpes, le phare,
Il paraît que votre mère fait un très bon phare breton.
Parfait. Elle a le bon plat en fait. Je crois qu'on va se battre pour l'héritage. J'espère que ça arrivera très tard. Mais elle a un plat en grès qui fait que son phare est parfaitement cuit. Et ce n'est pas évident.
Comment réagissent vos parents? Parce que votre père est un ancien psychologue devenu adjoint au maire. Votre mère est une ancienne professeure. Maintenant qu'elle a fait une chambre d'hôte. Comment ils ont réagi quand leur fille a dit je suis journaliste, mais je pars reporter de guerre?
Ils y étaient un peu pour quelque chose. Parce qu'en fait, toute notre enfance et notre adolescence, on a voyagé. On avait un camping-car. Et ça, c'est des vacances assez incroyables. Vous partez comme ça à l'aventure, vous arrêtez là où vous avez envie de vous arrêter.
Oui, c'est pas c'est pareil que reporter de guerre quand même.
Non, mais le reportage de guerre, ça arrive
des fois,
après le goût
de la
découverte.
Le mois d'août à la grande mode, des fois c'est un peu la guerre.
C'est ça. Non, mais on a sillonné l'Europe et puis ils m'ont donné le goût de comprendre. Voilà, un pays où on mange pas pareil que chez nous, on pense pas pareil que chez nous. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de faire du terrain aussi. Moi, j'avais envie de faire marcher ma tête, mais aussi mes jambes. J'avais envie de me rendre sur place.
Et comment ça se passe, excusez-moi de vous poser la question, mais avec les hommes quand on est reporter de guerre? Parce qu'il paraît que plein de fois, vous avez dû abandonner un dîner, vous avez des gens chez vous, vous les avez invités, hop, vous devez partir en reportage.
C'est pas facile, ouais, j'ai planté quelques dîners. J'ai même planté des invités autour de ma table.
Vous avez des gens chez vous et vous deviez partir.
C'est ça, c'est ça. Mais bon, comme on se reproduit entre nous, entre guillemets, ils comprennent.
Pardon?
Non, on a beaucoup d'amis journalistes.
Okay.
Non, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que vous vivez des choses d'une intensité incroyable et quand vous revenez, c'est compliqué de raconter que vous avez vécu des trucs de dingue sans lui. Vous voyez ce que je veux dire?
Le frigo est vide aussi. Vous
le
dites.
Frigo est totalement vide, ou alors avec quelques petites moisissures. Non, mais c'est vrai que c'est une vie passionnante que moi j'ai adorée, mais c'est une vie contraignante pour l'entourage déjà, parce que quand vous partez sur des terrains compliqués, les gens qui restent s'imaginent aussi que vous allez prendre des risques, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'ils imaginent, et donc c'est complexe pour ça aussi.
Et maintenant vous êtes stabilisée?
Totalement.
Totalement stabilisé. Donc c'est arrivé à point nommé en fait cette histoire de parce que maintenant vous avez un enfant, vous avez un compagnon.
Je venais d'accoucher d'une petite fille et c'est vrai que je me dis aujourd'hui que j'aurais pas forcément réussi à me dire le matin je peux partir pendant un mois, je sais pas quand je reviens avec elle à la maison.
Maintenant c'est plus possible.
Je suis contente de pas avoir été confrontée à ça finalement.
Par contre vous êtes absente le week-end et vous dites que quand vous revenez le lundi il faut que vous reconquérissiez votre fille.
Elle
vous fait la gueule en fait.
Elle ça va mieux maintenant mais c'est vrai que quand elle passe du temps avec son papa, oui, je sens qu'il faut que je me refasse ma petite place. Mais là, maintenant, c'est bien, parce que le mercredi, je suis toute seule avec elle. Et du coup, on a un autre rapport. Mais c'est vrai que c'est un petit peu des semaines à l'envers.
Et alors, Claire Chazal, pour qui vous avez travaillé, celle qui vous a passé le relais, et je crois qu'elle vous a encouragée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Moi, j'étais allée la voir et elle m'avait dit une phrase très simple, mais en même temps qui met une pression énorme. Elle m'avait dit « reste toi-même ». Et je m'étais dit « mais quel conseil horrible !» Parce que c'est dur de rester soi-même à l'antenne quand vous êtes dans un univers qui est totalement artificiel. La lumière n'est pas la lumière du jour. Vous êtes habillée d'une façon qui n'est pas la vôtre.
Vous dites, Anne-Claire Coudray, que vous avez beaucoup de mal avec les vêtements parce que ce n'était pas votre truc.
Moi, je venais du terrain. Donc forcément, ma garde-robe était totalement invalidée.
En jean, kaki, c'est ça?
C'est ça. Et
t-shirt.
Puis l'antenne, c'est très particulier. Il faut que ce soit très classique. Finalement, il ne faut pas que ça se voit, en fait.
Vous avez dû apprendre à avoir 5 tenues par week-end, c'est ça?
5 tenues par week-end, c'est énorme. Moi, j'ai commencé l'été. J'avais 6 week-ends. Une trentaine de tenues à trouver au mois de juin. Et c'est vrai que ça m'a paru être l'Everest. Autant mon métier de journaliste, je n'avais pas l'impression, finalement, de faire le grand écart. Parce que c'était.
Le même métier.
L'écriture n'est pas la même, évidemment. Mais mais c'est, oui, c'est, ça a été la garde-robe le plus compliqué. Et puis encore une fois, trouver un style, ne pas se sentir totalement déguisé, être soi-même, se reconnaître à l'antenne et en même temps être dans un rôle qui n'était pas du tout le mien. Donc bon, là voilà, ça fait 4 ans,
vous dites que ce sont les femmes qui vous font des remarques sur vos tenues.
Mais moi, ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir parce que...
Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ben, alors, certains trouvent que c'est super de mettre de la couleur, d'autres sont pas du tout d'accord que je mette du rouge ou du rose, d'autres me disent que le noir, c'est pas
le
possible.
Le rouge, c'est déjà pris. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est super d'avoir des... Au départ, je me disais, mais j'ai pas fait ce métier pour qu'on me parle de mes fringues. Et puis en fait, j'ai fini par trouver que ça faisait partie du jeu et que finalement, si j'étais là, c'est sans doute parce que j'avais envie que les gens me regardent aussi. Et si, il faut être honnête. Et puis, c'est toujours très bienveillant. Et maintenant qu'on voit aussi les chaussures, etc., c'est vrai que je trouve ça chouette, en fait. Il y a des gens qui me disent, vous savez, avec mon mari, on fait des paris sur la couleur de votre tenue pendant le générique. Mais moi, je trouve ça génial. Voilà. Aujourd'hui, j'ai appris à trouver ça chouette.
Europe.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Philippe Vézini, Benac, Christine Béroux et notre invitée Anne-Claire Coudray, venue nous parler de l'ouvrage Elles risquent leur vie, 5 femmes reporters de guerre qui témoignent, qui vient de sortir aux éditions Talendier.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vézini, Christine Béroux et notre invitée la belle Anne-Claire Coudray, venue parler de son livre, enfin du livre collectif Elles risquent leur vie, consacré aux reporters de guerre. Alors il y a quelqu'un qui a été très important dans votre vocation, Anne-Claire Coudray, c'est Anne Sinclair.
Oui.
Vous l'avez,
oui.
Vous l'avez.
Alors, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, mais alors qu'est-ce que je l'ai regardée quand j'étais petite. Et j'adorais cette émission 7 sur 7, le dimanche soir, on se mettait vraiment, alors c'était vraiment le grand rendez-vous où on se remettait un petit peu d'équerre, entre guillemets, pour la semaine, où tout s'éclairait finalement. L'actualité de la semaine prenait un relief
Vous dites que le journal télé est une manière de cultiver les gens pour qu'ils soient moins perdus dans l'environnement dans lequel ils vivent.
En tout cas, ça a joué ce rôle pour moi. Évidemment, je lisais des livres, je lisais des magazines hebdomadaires, mais le journal, c'est une façon de comprendre la société dans laquelle vous vivez de façon assez indolore, puisque c'est tous les jours une petite couche d'information supplémentaire. Et je trouve que le fait de comprendre la société dans laquelle vous vivez, c'est sans doute en avoir un peu moins peur. Donc moi, c'est cette mission-là qui m'a motivée pour faire ce métier.
Alors Anne-Claire Coudray, dans ce livre, Elles risquent leur vie, 5 femmes reporters de guerre témoignent. Vous racontez une anecdote où il y a un homme, un jour, ça vous a traumatisé, qui a voulu vous mettre un bébé dans les bras, qui était blessé, vous ne saviez même pas s'il était vivant. Et là, vous n'avez pas pu répondre à sa demande et vous êtes senti extrêmement coupable.
Oui, ouais, je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on part sur ces terrains-là, c'est la détresse des vivants. Bizarrement, ce n'est pas les morts qui nous impressionnent le plus, même si ça, c'est un vrai choc. C'était au moment du tremblement de terre en Haïti. Et c'est les vivants qui vous interpellent, qui vous agrippent. Parce que
qui vous demande de l'aide et vous pouvez pas leur donner
de l'aide et on donne ce qu'on a.
Il y a un confrère qui vous a calmé par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez dit?
Mais en fait, ce confrère, et je le remercierai jamais assez, il nous a expliqué à nous petits jeunes qui étions très impressionnés par la situation qu'on n'était pas des humanitaires, qu'on n'était pas là pour aider tout le monde, sinon on arrêtait de faire notre métier et qu'on les aiderait sûrement davantage en faisant notre métier, en parlant et en montrant la situation en France et en incitant quelque part les gens qui voulaient donner aux ONG de le faire, plutôt que d'avoir l'impression qu'on devait sauver les gens sur place, parce que c'est pas possible à un moment donné. Donc vous vous perdez aussi dans cette illusion-là.
Je vous présente quelqu'un qui va se perdre dans vos yeux, je crois,
c'est Ben H. Avec plaisir. Chère Anne-Claire Coudray, enchantée. Ben H, grand reporter pour Anne Romanoff.
Quel mytho.
Vous êtes avec nous ce midi pour nous parler de ce livre consacré aux femmes reporters de guerre, ce métier qui était le vôtre avant de devenir la présentatrice du 20h que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est avant tout une consoeur donc de terrain qui me fait face ce midi. Anne-Claire Coudray, on a couvert les événements aux quatre coins du monde. Hein. Vous, c'est Haïti, le Mali, le Sahel. Moi, c'est Haïti, Bali et Courchevel. Bon, chacun ses spécialités dans le métier. Hein. Vous, c'est les guerres et les catastrophes. Moi, c'est mes vacances. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Anne-Claire Coudray, à vous le rappeler dans ce livre. Hein, mais dans notre métier, voilà, le risque zéro n'existe pas. Combien sont rentrés de reportages mutilés ou pire encore, simplement pour avoir voulu nous informer. Le risque zéro n'existe n'existe pas. Et quel que soit l'événement, hein, j'ai un collègue reporter qui couvrait les festivals musicaux l'été dernier. Bon, bah, il est reparti, l'horreur, l'accident, avec des morpions. Anne-Claire Coudray, pour tout vous dire, ce midi, je rentre à peine de reportage. En effet, Anne Romanoff souhaite coller au plus près des sujets de fond dans cette émission. Une ligne éditoriale pointue reposant sur deux événements majeurs dans l'année, le Salon du Chocolat et la Saint-Valentin. Alors, ce midi, dans le prolongement de votre livre, Anne-Claire Coudray, pour montrer à tous nos auditeurs les coulisses de la vie d'un reporter de guerre, je vous ai ramené mon journal de bord de mon enquête baptisée « Coupe de champagne, petit cadeau et rapport non protégé, enquête sur la guerre du grand amour ». Notre enquête commence le mercredi 13 février 2019. Il me fallait des témoignages fiables pour couvrir l'événement. Je pars alors à la recherche de sources. Dans un but uniquement professionnel, je m'inscris donc sur Tinder. Très vite dans la soirée, j'ai un premier contact, puis un second, puis un troisième. Trois jeunes femmes dont je tairai le nom parce que, un journaliste ne balance jamais ses sources, et deux, parce que je ne m'en souviens plus. Jeudi 14 février, 21h. Toujours pour préserver leur anonymat, je donne alors rendez-vous à mes sources dans un lieu discret de la capitale, l'hôtel Ibis, porte de Clignancourt, chambre 312.
C'est classe.
L'interview se passe bien. Je procède à... avec un certain doigté, et chacune d'elles parvient à s'ouvrir très rapidement. Mes sources ne sont pas figées sur leur position et sont prêtes à donner de leur personne pour mon enquêquette. Pardon, j'ai bégayé.
Non.
Dimanche 17 février. Je quitte alors l'hôtel Ibis de Clignancourt après avoir approfondi le sujet pendant 3 jours et 3 nuits. Il est temps de rentrer chez moi, retrouver ma copine et fêter la Saint-Valentin. Vous le dites vous-même, Anne-Claire Coudray, le quotidien d'un grand reporter oblige parfois à mettre vos histoires d'amour à rude épreuve. Pour le romantique que je suis, c'est peut-être ça finalement le plus dur dans notre métier.
Bravo.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec Jean-Philippe Vizini, Ben, Christine Mérou et notre invitée Anne-Claire Coudray. Venez nous parler du livre Elles risquent leur vie, 5 femmes reporters de guerre qui témoignent.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce lundi avec Anne-Claire Coudray. Alors, vous êtes devenue quand même célèbre, du coup, depuis que vous présentez le journal, parce que 7 millions de personnes qui vous regardent, vous ne pouvez plus faire vos courses. Comment ça se passe, Anne-Claire?
Si, je fais mes courses. Je fais mes courses normalement et
où
je discute, du coup.
Où ça?
Calme-toi.
J'ai pas le droit de citer des marques, mais non, je fais mes courses au supermarché, bah, évidemment. Et je discute avec les gens qui sont là. Je pense que c'est un bel endroit pour rencontrer du monde. Mais moi, j'ai toujours fait les supermarchés. Enfin, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais quand on partait à l'étranger, ma mère insistait toujours pour qu'on aille dans des supermarchés pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et c'est vrai que c'est plein d'enseignements, les supermarchés. Voilà, déjà, ça nous enseigne, ça nous renseigne sur ce que les gens mangent et puis sur ce qui ils sont et leur culture. Et puis là, aujourd'hui, j'y rencontre des téléspectateurs. Donc non, j'ai gardé cette habitude-là.
Vous avez aussi animé le grand débat présidentiel avec Gilles Boulot. Comment ça s'est passé?
C'était une première, c'était vraiment une première. Alors on les avait reçus.
C'était pire que la guerre, ça.
Non, parce que finalement on était assez en retrait, nous présentateurs. Il y avait cinq candidats principaux qui devaient s'emparer du débat précisément. Donc on était un petit peu en retrait. C'était fascinant de les voir tous en même temps. C'est-à-dire qu'on
Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Et on a l'habitude de les entendre séparément, mais de les voir face à face, les uns à côté des autres. Défendre leurs positions différentes, c'était un éclairage qu'on n'avait jamais eu, une sorte de comparaison en direct de leur programme qui était assez inédite et j'espère qu'on le refera.
Alors vous avez aussi, le 15 octobre 2017, vous avez interviewé Emmanuel Macron côté de Gilles Boulot et de David Pujadas. Est-ce qu'il était différent par rapport au débat ou c'était devenu un autre homme? Est-ce que sa puberté a influé sur la deuxième année du quinquennat?
Alors je vais répondre à la première question. Non, il était forcément différent quand vous devenez président de la République. Et nous aussi, on était différents. Parce que moi, je crois que vous ne vous adressez pas à un président de la République comme à un candidat, ce qui est tout à fait normal. Il y a aussi un respect de la fonction. Et donc forcément, c'était intéressant. C'était pas facile. C'est jamais facile. Déjà parce que l'exercice, il n'y a que des coups à prendre. Ces dernières années ou ces derniers mois, on a essayé à peu près toutes les formules possibles et on se rend compte que tout ont des limites. En fait, les gens ne sont jamais totalement satisfaits de l'exercice. Et en même temps, il y a toujours autant de monde qui regarde. Et puis là, on assiste à quelque chose qui est assez incroyable. Hein, le grand débat, ce président qui retrousse ses manches, qui fait tomber la veste. C'est politiquement parlant, c'est passionnant.
Anne-Claire Coudray, vous adorez la musique bretonne?
Oui.
Ah, c'est vous?
Oui.
On est quelques-uns quand même, ou quelques-unes.
Et dans une autre vie, vous auriez pu être Nolwenn Leroy ou...
Alors, j'ai pas sa voix, malheureusement, ce qui est un tout petit détail quand on a une carrière en tête. Non, non, j'adore la culture bretonne. Moi, je fais partie d'une génération où on n'en parlait pas tellement. Et puis, j'ai une petite sœur qui me suit de 5 ans, plus jeune que moi, et qui, elle, avait été d'une génération où on faisait partie de cercles celtiques, où on participait aux fest-noz, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un revival
vous,
à ce moment-là.
Vous chantez, vous dansez comme
exactement,
ça.
Exactement. Non, mais c'est incroyable. Hein. Vous entrez en transe, vraiment. Hein. Les fest-noz, c'est impressionnant. Il y a des tout petits, des anciens.
Même
des
sans chouchène, on peut participer.
Même c'est... sans chouchène, ouais. Ça vous emporte.
Et puis les Bretons sont les meilleurs.
Oh, ça va.
Objectivement, je suis
objectivement.
Que vous êtes Locmaria Kerr et moi, je suis Locmaria Plouzané.
Ah,
on
oui,
est
d'accord.
La team Locmaria.
Eh ben oui.
La
eh ben
team
oui.
Locmaria.
Bah oui.
Hashtag team Locmaria. Vous êtes quatre dans votre truc, ça va.
Mais j'aime bien parce qu'elle m'a regardé avec politesse, parce que le nombre de gens qui doivent vous dire, moi aussi, je suis bretonne, tout ça.
Pas du tout, pas du tout. Il y a énormément de Bretons dans le monde. Moi, j'en ai rencontré en Birmanie des Bretons.
Ah oui.
Je me souviens, j'étais tombée sur.
Des aventuriers.
Mais voilà, c'est ça, des aventuriers qui prennent la
des
mer,
marins,
qui partent
oui.
à l'aventure. Voilà, c'est sans doute.
Il fait tellement moche en Bretagne qu'il forcément.
Ça va.
Cherche le soleil là où ils peuvent, les pauvres.
Jean-Philippe Vigny a des choses à vous dire, Anne-Claire Coudray.
Oui, Anne-Claire Coudray, moi je suis très ému car je suis devant vous et pour la première fois de ma vie, vous me voyez aussi. Bah oui, parce que d'habitude, vous êtes dans ma télé et moi je suis de l'autre côté et vous me voyez pas. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que moi à 20h, j'ai une serviette autour du cou, je mange des pâtes, j'engueule mes gosses pour qu'ils finissent leur assiette. C'est vrai qu'il y a un décalage entre l'ambiance du 20h et ce qui se passe chez nous à la maison pendant ce temps. Au 20h. Une personne âgée a été maltraitée dans un EHPAD sans que personne ne s'en aperçoive. À la maison. Chérie, il y a un reportage sur les EHPAD, ça a l'air vachement bien pour ta mère. Elle a quel âge déjà? 62 ans. Oui, mais tu sais, faut s'y prendre tôt pour avoir une place, hein. Bon allez, je l'inscris demain, ce serait dommage de l'avoir dans l'EHPAD cet été. Au 20h. Malgré les efforts des associations humanitaires, la famine a encore frappé ce village africain. À la maison. Chérie, je viens d'avoir une idée pour ton régime. À la place du Club Med cet été, je t'envoie loger chez l'habitant. Elle est un peu dure celle-là, hein, mais je l'assume quand même. Mais aujourd'hui, vous êtes là aussi pour votre livre « Elles risquent leur vie ». Ma femme a lu votre livre, elle a adoré. Et depuis, elle veut devenir aussi une grande reporter de guerre. Et pour son premier reportage, elle a choisi d'aller là où peu osent aller. Là où c'est la guerre, la vraie. La chambre des gosses. Ça fait 3 jours qu'elle est partie et on n'a plus de nouvelles. J'ai essayé de rentrer en contact avec les enfants pour savoir s'ils voulaient bien la libérer, s'ils voulaient libérer l'otage contre une rançon. Ils m'ont dit « On veut 10 euros d'argent de poche tous les mois ». Bon, pour l'instant, j'ai pas encore payé parce que finalement, ma femme, elle me manque pas tant que ça. J'attends un peu, mais dès que la panière de linge sale déborde, c'est promis, je paye la rançon. Alors, Anne-Claire Coudray, j'imagine que vous me trouvez peut-être un peu misogyne, mais c'est ça, quand on essaie de faire rire, forcément, c'est le risque qu'on prend. Mais ce n'est rien par rapport au risque que vous prenez pour nous informer, car vous, ce que vous risquez, c'est la vie. C'est beau, hein ? J'ai essayé de mettre de l'émotion sur la fin, ça...
Alors Jean-Philippe Vizini aujourd'hui est accompagné de sa fille.
Oui, bah
est-ce
oui.
Est-ce que tu veux venir au micro ?
Oh non, surtout
si
pas.
Si, allez.
Est-ce qu'il est vraiment comme ce qu'il a raconté dans la vie ?
Viens.
On est curieux.
Tu vas te faire interviewer par Anne-Claire Coudray et Yann Roumanoff.
C'est
toi.
Bonjour.
Quel âge tu as ?
J'ai 13 ans.
Alors c'est vrai ce qu'il raconte sur ses enfants ?
Ça dépend quand.
Est-ce que tu retrouves un petit peu ta vie dans ses chroniques ? Il raconte des choses que vous lui avez fait subir et il s'en inspire ?
Des fois, oui.
Et qu'est-ce que tu vas nous chanter ?
Rien.
Okay.
Et t'as des devoirs aussi ? Ou tu vas travailler pendant les vacances scolaires ou pas du tout ?
Oui, j'ai déjà commencé les devoirs, oui.
Non, mais elle travaille très bien. Elle est en 4e internationale, c'est-à-dire qu'elle a des cours en anglais.
Mais il est fier ! Tu peux nous parler anglais alors ?
Alors c'est là où tout s'arrête, là, vous allez voir. C'est là où la magie... Alors vas-y, en anglais, vas-y.
Hello.
Voilà. Et on paye une école privée pour ça, c'est bien, on n'a pas foutu de l'argent en l'air. Hein.
Mais c'est un bon début, oui. Quand t'es sur le terrain, ça commence toujours comme ça.
Oui.
Absolument. Hello. Eh bien, hello, on va surtout faire l'histoire de la semaine maintenant.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Anne-Claire Coudray, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire. Comme c'est lundi, c'est à vous de démarrer l'histoire avec un mot que vous tirez dans le chapeau. Qu'est-ce que c'est ce mot ?
Bah, ça tombe bien, interview.
Interview. Alors, on va dire que vous allez démarrer une histoire érotique avec interview.
Elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle s'apprêtait à faire l'interview la plus difficile de sa vie. Et il s'était passé un choc électrique qu'elle ne s'expliquait pas. Je comprends pourquoi je ne suis pas écrivaine et que je suis journaliste finalement.
Merci Anne-Claire Coudray d'être passée nous voir. On rappelle votre livre auquel vous avez participé, Elles risquent leur vie, 5 femmes reporters de guerre témoignent. Merci à la fille de Jean-Philippe Vizini d'avoir participé à l'émission. Merci jeune fille, passe de bonnes vacances avec ton papa à Paris.
Merci.
Et nous on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin pour le journal.